Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
Hallo, Ende Januar dieses Jahres, am 26.01. haben wir den ersten Teil des Gespräches mit dem französischen Soziologen und Sozialphilosophen Pierre Bourdieu gesendet. Das Gespräch drehte sich um Entstehung und Wirkungsweise des neoliberalen Wirtschaftsmodells. In diesem zweiten, etwas kürzeren Teil nun, steht der Staat im Mittelpunkt des Gespräches. Bedarf es eines Staates und wenn ja, wie sollte dieser Staat aussehen? Mutiert der demokratische Staat gegenwärtig unter dem Druck der neoliberalen Globalisierung und seiner Eliten zu einer autoritären Umverteilungsbürokratie? Welche Formen demokratischer Teilhabe und sozialer Umverteilung könnten dem Angriff der globalen Eliten auf die in nationalistischer Nostalgie verhafteten Gesellschaften abwehren? Läge in einer Weltgesellschaft mit einem Weltstaat eine alternative Utopie? Pierre Bourdieu lässt keinen Zweifel. Ohne einen Staat als soziales Schutzelement wären die Folgen für die Gesellschaft derzeit verheerend. Die Forderung nach einem schlanken Staat, nach der Reduzierung sozialer Leistungen, nach mehr Eigenverantwortung des Einzelnen etc. pp., wie wir sie in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben und derzeit besonders vehement erleben, ist populistische Verpackung einer neoliberalen Agenda der Umverteilung von unten nach oben. Es ist ein Angriff auf jeden Einzelnen von uns mit den uns allen bekannten Folgen. Umverteilung und Vervielfachung der Milliardäre und Millionäre, Aufstieg des Rechtspopulismus und die Erosion demokratischer Sicherungssysteme wie Justiz, Sozialsysteme und demokratische Teilhabe. Viel Spaß beim zweiten Teil des Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Paris aufgezeichneten Gesprächs mit Pierre Bourdieu.
Individuum versus Staat, mit dieser Alternative verspricht der Neoliberalismus Befreiung. Steht dahinter nicht das europäische Emanzipationsmodell seit der Aufklärung, die Rebellion des Besonderen gegen das Allgemeine?
C'est vrai que le lien entre individualisme et libéralisme est très fort et est encore plus forte l'opposition entre individualisme et ce que certains économistes appellent holisme. C'est un mot affreux de holos, tout, totalité. Hein. Bon, et je pense que c'est le fait de prétendre enraciner cette nouvelle croyance dans la liberté individuelle et de présenter ce mouvement de restauration conservatrice, comme je dis, comme un mouvement de libération. Bon, je pense que c'est peut-être la ruse plus dangereuse, la plus difficile à combattre. Bon, je crois que c'est pour ça que les révolutions conservatrices sont toujours très difficiles à combattre. Hein. Non, c'est vrai, elles ont cette propriété, c'est qu'on ne sait plus, puisque tout est mis à l'envers. Puisque la révolution consiste à conserver. Et alors, conserver consiste à révolutionner. Donc, vous ne savez plus ce qui est blanc et ce qui est noir. Bon, et du même coup, une révolution conservatrice qui arrive à se présenter alors qu'elle restaure le conservatisme dans sa forme la plus traditionnelle, c'est-à-dire le pouvoir des dominants, le pouvoir des détenteurs de capitaux, pour dire les choses brutalement. Et c'est un tour de force puisque on peut faire apparaître la résistance à ce processus comme un archaïsme, comme un conservatisme. Bon. Et aujourd'hui, dire par exemple que l'État est un instrument de libération apparaît comme quelque chose de tout à fait archaïque. On vous dit tout de suite soviétisme, stalinisme, etc. Alors ceci dit, l'État c'est pas quelque chose de simple. Une des raisons pour lesquelles les néolibéraux et leurs adversaires d'ailleurs sont faibles, c'est qu'ils ont des théories faibles de l'État. Et en grande partie parce qu'on a enfin tous plus ou moins accepté les théories marxistes de l'État. Bon. C'est-à-dire que la théorie hegelienne de l'État, qui est une magnifique théorie, enfin l'État fonctionne de l'humanité, l'État comme instance transcendante au conflit entre les classes, entre les personnes, etc. Bon, cette idée-là est complètement évacuée. L'État comme conscience de soi de la société, bon, comme dirait Hegel, comme dirait Émile Durkheim, le grand sociologue français. Bon, l'État comme, la société se pensant elle-même, bon, et se réfléchissant. Et, bon, alors ça, c'est même pas une mythologie, personne n'y croit. l'idée qu'on a, grossièrement, c'est l'État comme structure d'organisation de la production, de la consommation, et en plus des prisons, etc. Bon, alors qu'aujourd'hui, ce vers quoi on va, c'est une dissolution de l'État comme instance de régulation des conflits sociaux, comme instance de redistribution. Bon, ce qui est absolument capital, de redistribution des profits aux plus faibles, aux moins dotés, sous forme d'hôpitaux, sous forme de crèches, sous forme d'écoles, etc., etc. Bon. Et il va rester peu à peu, c'est cet État qu'on détruit. Quand on dit on va détruire l'État, on va supprimer les écoles, on va supprimer les crèches, on va les rendre privées, ce qui revient aux mêmes. Bon, on va les réserver à ceux qui peuvent payer. Bon. Et on va garder quoi? C'était là on le garde, l'armée et la police. Bon, ça, c'est un fait social très important, c'est que dans le pays qu'on nous donne éternellement en exemple, les États-Unis, les dépenses de police ne cessent pas d'augmenter. Et depuis quelques années, c'est un fait social réel, statistique, dans l'État de Californie, qui est un des États les plus sophistiqués des États-Unis, les dépenses de police ont dépassé depuis 4 ans les dépenses de toutes les universités réunies. Bon, les dépenses de police vont croissant. Bon. Et il y a toute une industrie pénitentiaire qui se développe. On fabrique des gilets, des chaises pour attacher les gens. Enfin bref, l'industrie des prisons est une des grandes. Bon. Alors cet État-là, on ne le fait pas dépérir. On fait dépérir quoi? Alors, c'est l'État, donc, qui est une réalité ambiguë, qui a été en grande partie conquise par des luttes. Bon, et dans l'État, il reste à chaque étape, si on peut dire, les acquis des luttes précédentes. Bon, par exemple, en France, on parle de ministères sociaux. Le ministère du Travail, bon, c'est un ministère qui a été conquis par les luttes des travailleurs pour obtenir des droits sociaux, des protections contre les accidents du travail, etc. etc. Bon, et ainsi de suite, on pourrait prendre successivement. Donc, l'État donc, est la survivance sous forme d'institutions d'acquis historiques. Bon, voilà. Or, cet État-là, c'est celui-là qu'on veut faire disparaître, au profit, en laissant survivre l'état minimal nécessaire pour que la production de profit puisse continuer. Bon, hein. Donc, moi, je dis qu'il y a, enfin, c'est une distinction très simple, mais économique, je pense. Je dis, il y a deux états. Il y a un état de la main droite. C'est l'État qui s'occupe des finances, de l'ordre, du maintien de l'ordre. Bon, la monnaie, la police, l'armée. Bon, et puis il y a un État de la main gauche, qui en fait, les Suédois l'ont très bien vu, est à la fois le plus profitable aux dominés, et en particulier aux femmes. C'est là qu'on trouve des femmes qui travaillent, des infirmières, des professeurs. C'est de ce côté-là qu'il y a des féminisations, c'est le secteur public. Bon. Et c'est de ce côté-là que les femmes seules, etc., etc., reçoivent des protections. Bon, cet État social, c'est celui-là qui est menacé par, c'est ce qu'on appelle welfare state, enfin c'est celui qui est menacé par les réformes néolibérales. Voilà, donc il n'y a pas à choisir entre État, pas d'État, il y a à choisir entre quel État. Et je dis que ce que on nous, qu'on nous dise clairement, ce que nous ne voulons plus, c'est un État social qui protège les travailleurs, les employés, etc., qui protège les faibles, qui donne la sécurité pour l'avenir, qui donne la sécurité sociale, c'est là qu'on ne veut plus. Mais on veut bien garder l'État policier, qui lui aussi coûte très cher.
Was ist von der Grundthese des aus dem 19. Jahrhundert übernommenen Liberalismus zu halten, dass eine auf Konsens, Zusammenarbeit, auf Frieden anstatt Wettbewerb basierende Gesellschaft dazu verdammt sei, in Stagnation, Dekadenz zu enden, letztendlich ihre Lebenskraft zu verlieren?
Oui, le néolibéralisme, c'est une religion syncrétique, comme on disait pour les religions romaines. C'est des religions qui prennent un petit peu partout. Et un des fondements du libéralisme, un fondement philosophique, c'est le darwinisme. Et certains des économistes néolibéraux, même les plus hard, les plus rigoureux, je pense à Gary Becker, par exemple, il a écrit un article qui s'appelle « De gustibus non est disputandum », dans lequel il essaie d'expliciter les fondements anthropologiques des conduites économiques telles qu'il les voit. Et il dit... Finalement, pourquoi pouvons-nous postuler que les agents économiques obéissent aux calculs rationnels, bon, qu'ils sont des calculateurs rationnels, parce qu'ils sont le résultat de la sélection naturelle.
Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
Et la sélection naturelle, c'est la survivance des meilleurs. Bon. Alors, il fait un lien entre le modèle évolutionniste qui fait survivre the best and the brightest. Alors les économistes pensent qu'ils sont the best and the brightest. Ils sont le produit d'une sélection qui, ayant sélectionné les meilleurs, les a préparés à agir dans le monde de manière rationnelle. Et cette philosophie est extrêmement importante parce qu'elle est auto-justificatrice. Et Max Weber disait toujours, une classe dirigeante a toujours besoin, il disait, d'une théodicée de son propre privilège. Bon, il faut comment justifier, hein, les mandarins chinois, comment expliquent-ils qu'ils gouvernent? Bon, il faut toujours une justification, hein. Et je pense que dans nos sociétés, la théodicée ou la sociodicée, enfin, le système argumentatif qui est employé pour justifier les dominants de dominer, je pense, c'est le mot de compétence. C'est compétence, c'est ou rationalité, ou bon, et compétence combiné avec mérite, combativité, efficacité, hein, ce serait ça les qualités du cadre moderne idéal pour quand on regarde les annonces dans les journaux, cherchons cadre dynamique. Alors il y a donc compétence et dynamisme, c'est-à-dire compétition, compétitivité par opposition à stagnation, à solidarité. En fait, on n'est plus dans des sociétés d'amour comme auraient dit les chrétiens, hein, où le critère ça serait pour choisir un homme, ça serait ce qu'il aime son prochain, est-ce qu'il est généreux, etc. On est une société de lutte darwinienne, où il faut être méchant, il faut être dur, il faut être, par exemple, quand on fait ces palmarès, là je citais tout à l'heure ces gens qui font des plans sociaux, il y a aux États-Unis des palmarès des patrons selon le nombre de gens qu'ils ont vidés. Ils ont five, il a vidé 300 000 travailleurs, ça c'est un bon. Donc c'est fait de reconnaissance qui est très étonnant. Penser qu'on fabrique une civilisation, qu'on fonde une civilisation moderne sur l'exaltation au fond de la violence. Jamais le capitalisme n'a osé se montrer à visage découvert comme ça. Même les théoriciens les plus cyniques, enfin bon, n'osaient pas avancer des propositions comme celle-là. Alors cette sorte de justification, s'il n'y a pas de compétence, qu'il n'y a pas de stagnation, bon, le 19e siècle avait des discussions comme ça. Et moi, j'ai relu dans mon travail pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qu'on appelait au 19e siècle les solidaristes. C'est des gens qui, dans les années 1880, enfin, ils ont été très importants en France. C'était une tradition socialiste, comment dire ça, qui malheureusement n'a pas triomphé. Bon, qui n'était pas la tradition marxiste, qui était darwinienne aussi. Hein. Bon, c'était des gens qui disaient bon, le monde social est traversé par des conflits, par des tensions, des contradictions, etc., etc. Le monde économique, Durkheim, enfin le grand sociologue français, disait le monde économique, c'est le lieu de l'anomie, c'est-à-dire c'est sans loi, c'est sans foi ni loi. Bon, alors comment mettre de l'ordre là-dedans? Et il voulait faire des corporations, remettre de la solidarité. Bon. Et alors ces solidaristes ont beaucoup réfléchi, ils se sont dit mais comment on peut remplacer? On a l'économie qui est la violence. Bon, et puis en face, il y a la charité. Alors il y a les chrétiens, ils font la charité, mais c'est purement personnel. Ils donnent si ça leur fait plaisir. C'est comme Kant critique les philosophes de la sympathie. Les philosophes écossais, il dit ah oui, mais c'est très bien la sympathie, mais on peut pas fonder une morale sur la sympathie, parce que si vous êtes de bonne humeur ce jour-là, vous allez donner 1000 francs, et puis le lendemain, vous enverrez pouler le pauvre. Donc si on veut fonder une société rationnelle, bon, une morale rationnelle, bon, il faut des bases. Et ces gens s'est recherché, ils disaient ben c'est l'État. C'est l'État qui peut faire ça. L'État va prélever froidement de l'argent et puis il va le redistribuer, mais pas comme ça, à votre bon cœur, ah oui, ce pauvre me plaît, je lui donne 1000 francs, celui-là ne me plaît pas, je lui donne rien. Voilà. Et donc l'État est seul capable, et ça c'est très important, je pense, l'État est seul capable de faire de la redistribution raisonnable. Alors, malheureusement, il y a la corruption, il y a enfin, tout ce que nous savons. Hein. Dans la redistribution, il se passe beaucoup de choses en France en ce moment, ça, bon, enfin, il y a beaucoup de corruption, mais le modèle étatique, avec tous ses défauts, bon, est le seul, hein, alors là je peux dire, parce que j'ai beaucoup travaillé en particulier sur ces problèmes de corruption sociologique, comparé de la corruption dans la Chine classique, où il y a eu des grands mandarins qui avaient les mêmes problèmes qu'ont les hauts fonctionnaires aujourd'hui, etc., dans la Rome antique, etc. La corruption est la tare des systèmes solidaristes. Bon, parce que on ramasse de l'argent et on redistribue. Et aujourd'hui, l'humanitaire, bon, est évidemment une des grandes sources de profits illicites. Bon, ça, je viens de publier un très beau travail d'un jeune américain sur les grandes entreprises américaines, humanitaires américaines. C'est évident que c'est une voie de carrière pour des jeunes gens de bonne famille et aussi des voies de profit. Donc, dès qu'on a redistribution humanitaire, on est en danger d'avoir de la corruption. Des gens qui prélèvent sur la somme à redistribuer des choses qu'ils se destinent à eux-mêmes. Bon, voilà, voilà. Mais, de toute façon, c'est quand même le système le moins... On dit la démocratie, c'est le système le moins mauvais. Bon, ben, je pense un système étatique, c'est le système qui réalise le mieux, qui résout le mieux ce problème de la justice, finalement. Parce que il fait sortir de l'arbitraire du rapport d'homme à homme, individuel, justement. Moi, en tant qu'individu, je te donne à toi en tant qu'individu. Bon, alors le mécénat, voilà, il y aurait tout à réfléchir là-dessus sur le mécénat. Ça, on nous dit, mais voyons, laissez tomber les subventions à l'État, les subventions d'État à ces tares d'avant-garde dégénérées. On parle comme ça. Hein, comme dans les années 30, il y a beaucoup de ressemblances quand je dis révolution conservatrice. Cet art d'avant-garde dégénéré, ces expositions minables, etc. Laissez faire le mécénat. Les mécènes, c'est l'intérêt privé, ils font des collections propres, etc. Ils jugent vraiment et vous aurez un véritable soutien de l'art. Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il faut payer le prix de la corruption, de la logique des commissions, de toutes ces choses qui sont liées à l'État, que moi je n'aime pas beaucoup, je peux dire, je n'aime pas beaucoup le côté collectif, étatiste, etc. Bon, mais c'est le moindre mal si on veut sortir de la charité singulière et faire un tout petit peu de justice distributive.
Das neoliberale Dogma, das Wettbewerbsdenken ohne Schranken hat eine Krise der Politik verursacht, eine Krise des Staates. Sie sagen, dass die beiden Grundpfeiler der Demokratie, das System der Repräsentation und das Prinzip der Delegation neu betrachtet werden müssen, neue Formen gefunden werden müssen. Wie können diese Formen aussehen und wie kann die Form dieses Staates aussehen, von dem Sie sprechen? Muss das nicht ein internationaler Staat sein, im Grunde eigentlich ein Weltstaat?
On ne peut pas laisser faire une Europe autour d'une monnaie et autour d'une banque. C'est absolument impossible. Il faut une révolte de tous les gens qui pensent, de tous les gens qui agissent, de tous les gens qui écrivent pour exiger une internationalisation alors du droit, une internationalisation de la culture, une internationalisation de l'école. Enfin, comment peut-on faire une banque européenne alors qu'on n'a pas réfléchi du tout sur une école européenne? Alors, il y a des accords lamentables pour les équivalences de diplômes, pour la circulation, les projets Erasmus, etc., etc. Bon, nos ministres de l'éducation devraient avoir pour premier travail, en fait, c'est difficile, hein, moi c'est ma spécialité, donc je peux dire que c'est difficile, d'essayer d'étudier les obstacles sociaux actuels à l'unification, pas seulement des diplômes, mais des programmes, des manières de penser, en commençant par les choses les plus vitales, mais les plus difficiles, l'histoire, la philosophie, la littérature, etc. Bon, tout ça, il faudrait mettre tout ça en chantier pour avoir les bases d'un homo europeanus, enfin commun, qui est des références culturelles communes, qui est en tête des valeurs communes, etc. Alors ça a l'air utopiste, mais ça l'est pas du tout. En fait, c'est ce qui est fou, c'est qu'on puisse se réjouir, enfin, d'avoir réuni des pays autour d'une monnaie. C'est monstrueux. Voilà. Alors je pense, vous voyez, Dieu sait que je suis pessimiste sur ce que peut entraîner l'euro, mais je pense que ça ne peut pas ne pas, à un certain moment, susciter une révolte des gens qui disent « enfin, c'est pas possible, parlons quand même d'autre chose, nous ne pourrons pas continuer à discuter uniquement pour savoir si la parité est bien respectée, etc. etc. » Les gens finiront par dire « Monsieur Tittmeyer, écoutez, voyons, on va quand même parler de programmes de mathématiques pour sélectionner les économistes, enfin, c'est pas possible. » Mais dans l'état actuel, c'est proprement révoltant, et je suis très dégoûté, enfin, de voir la passivité des intellectuels. Enfin, ça, je trouve ça incroyable. Les intellectuels allemands, tout particulièrement, je trouve vraiment qu'ils sont d'une passivité inouïe. À part quelques noms toujours les mêmes, Günter Grass, etc. Bon, il y a un silence terrifiant.
Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.